Vous écoutez RTL.
C'est parti pour la curiosité, Thomas, Sidonie, une histoire de pipi aujourd'hui. Hein
ah oui, pas que de toilettes, d'histoire de toilettes, de papier toilette, de chasse d'eau, vous voyez, ça concerne un peu notre quotidien. Et comme on aime passer du coq à l'âne, on va aussi vous raconter l'histoire d'un des acteurs les plus rentables d'Hollywood, c'est Johnny Depp, la star de Pirates des Caraïbes. Vous avez dû le voir, il est apparu très amaigri. Oui. Sur les réseaux sociaux, on se pose la question et puis on s'intéresse aussi à son destin d'acteur célèbre partout dans le monde, lui qui rêvait de devenir musicien.
Et donc, comme promis, Stéphane, je sais que vous y tenez, on s'enferme au petit coin maintenant.
RTL. Quand t'es avec des gens, c'est toujours super gênant de s'isoler pour aller aux toilettes. Enfin, quand tu vas faire pipi, ça tu le dis. Par contre, quand on doit aller faire ça on le dit jamais.
La curiosité est un vilain défaut.
Bah, Norman, tu vas où?
Ah, je reviens, je vais faire un truc.
Non mais comment ça, tu vas faire un truc?
Je vais faire un truc, j'arrive.
Réponds. Tu peux nous dire.
Réponds, Norman.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bon, ok, je vais faire... C'est bon? Tout le monde est au courant? Je peux y aller?
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Formidable sketch de Norman. Norman fait des vidéos que vous pouvez retrouver sur internet. C'est le sketch Les Toilettes. Vous avez compris, il va au Bonjour à tous, bienvenue, c'est La Curiosité sur RTL, l'émission qui n'a aucune limite, aucun tabou et qui pose toutes les questions qui vous passent par la tête et forcément aussi celles que vous n'osez pas poser. On est là pour le faire. Vous allez bien, Thomas?
Ça va très bien, Sidonie. Bonjour. Bonjour à tous. Des questions et des réponses dans tous les domaines de la vie. Vous le savez, si vous êtes fidèle à RTL entre 14 et 15 heures, la nature, l'aventure, l'histoire, la science, les grands destins, l'espace, la musique et donc aujourd'hui, notre vie quotidienne.
Mais c'est quand même fou, on y passe 3 ans de notre vie, on y va en moyenne 2500 fois par an. Bienvenue au Petit Coin. Bonjour Sabine Bourget.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes auteur et numismate et ça n'a rien à voir. Vous êtes passionné par les toilettes et c'est une histoire incroyable qu'on va raconter. Bon, avant, quelques petits chiffres. Qui passe le plus de temps aux toilettes? Les hommes ou les femmes? Moi, je dirais les hommes.
Non, c'est les femmes.
Ah bon?
C'est les femmes, mais je pense que c'est parce qu'on a plus de vêtements. Déjà, on a des collants.
Ah bah oui.
Donc il faut les retirer, souvent on a plus de vêtements, on a peut-être plus de soins pour s'habiller, se redéshabiller. Donc on passe quand même plus de temps.
Et combien
ça veut
de
dire
temps
quoi?
Oui, c'est ça, combien de temps?
C'est pas une demi-heure, non, mais je pense que si un homme fait ça peut-être en... Je sais pas, peut-être une minute, une femme va peut-être mettre une minute et demie, deux minutes. Bon, et puis après, il y a les joies de chacun, si j'ose dire.
La lecture, etc.
Avec le portable.
Oui. Le lieu où on peut être tranquille quand
c'est
on vrai. A envie de s'isoler,
oui,
etc.
Ça, c'est bien pratique.
Alors, on s'est beaucoup amusé à la curiosité quand on a lancé ce thème, parce qu'il y a tellement de mots, de noms pour désigner les toilettes. Vous les avez listés, vous aussi, Sabine Bourget. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, comme ça, qu'on démarre?
Il y a des choses très classiques, les toilettes. Moi, j'ai un faible pour les water, parce que généralement, les gens prennent leur élan, c'est les water. Enfin, ça, c'est déjà un peu plus vieux.
Moi, j'aime bien les cabinets.
Les cabinets, c'est sympa. C'est
rétro.
Sympa, oui. Les pipi rooms. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Et puis, bon, carrément des trucs plus argotiques.
Oh, allez-y.
Les chiottes, les choses comme ça. Vous avez, bon, les. Puis les expressions, j'aime bien les expressions pour dire où sont les toilettes. Par exemple, je voudrais me rafraîchir ou me laver les mains.
Oui.
Alors là, c'est plus risqué parce que les gens peuvent vous amener dans la salle de bain et point final.
Ah, oui.
Quoi. Donc il y a tout
toilettes.
Un tas de trucs.
Alors, il y a un truc incroyable qu'on a appris dans votre livre, le livre que vous publiez aux éditions Auray, le grand livre du Petit Coin. C'est que, par exemple, dans les couloirs d'RTL, quand on rencontre un collègue ou notre patron et qu'on lui dit...
Ou tout à l'heure, quand on s'est salué pour démarrer l'émission.
Mais nous, on est assez familiers, alors bon, pourquoi pas, mais on demande comment vas-tu ou comment allez-vous, monsieur le directeur? Qu'est-ce qu'on demande en réalité à la personne à qui on dit ça?
Globalement, c'est comment allez-vous à la salle? C'est est-ce que vous êtes constipé ou pas?
C'est ça que ça veut dire à l'origine,
en fait. Oui, est-ce que vous y allez tous les jours? Comment allez-vous à la salle? C'était finalement une question qu'on peut poser à un médecin, mais bon, comment allez-vous à la salle?
Mais ça veut dire que c'est devenu une expression du langage courant.
Oui, parce que finalement, disons un transit régulier, pour parler chic et choc, annonce souvent une bonne santé.
Ah oui.
Donc si la personne vous dit c'est une fois par mois laborieusement, c'est pas bon signe quoi.
Ouais. Et donc c'est devenu une formule de politesse pour prendre soin de la santé de son interlocuteur. Est-ce qu'il y a d'autres mots, d'autres expressions qu'on emploie et sans le savoir qui viennent finalement des toilettes des WC?
Il y a des expressions qui sont passées dans le langage. Moi j'adore quand on dit de quelqu'un qu'il est un peu pisse-froid, c'est un côté tout à fait vétuste.
Ouais.
Mais pisse-froid, on visualise tout à fait, c'est pour dire quelqu'un de complètement coinsouille ou limite désagréable, froid.
Ouais.
Mais pisse-froid, je trouve, c'est une image qui est drôle.
Oui, c'est vrai.
Sabine Bourget, on y glane dans votre livre une mine d'informations à dévorer sur son canapé ou aux toilettes,
ça
tombe bien, puisqu'on y prend un peu de temps. Et vous racontez l'histoire de ce petit coin qui semble aller de soi, pour nous, on n'y pense même plus. Mm. Tout commence à l'Antiquité. C'est comment les toilettes?
C'est plus convivial, dirais-je. C'est-à-dire, c'était généralement des toilettes publiques,
ouais.
Mais tout ça dépend aussi beaucoup du rapport au corps. Parce qu'en fait, bon, dans l'Antiquité, le rapport au corps est beaucoup plus naturel. La nudité est plus naturelle, on voit les statues et choses comme ça. Et donc, les gens allaient dans des toilettes communes,
hommes
ils s'essayaient. Hommes et femmes, certainement, ils s'essayaient et puis discutaient, si j'ose dire, le bout de gras, les affaires courantes en officiant. Et puis, plus on va aller finalement vers une restriction, vers un côté un peu puritain, et puis bon, hygiéniste aussi, il y a quand même vite. Plus les toilettes vont être quelque chose de secret et de plus en plus personnel.
On emploie parfois le mot de Vespasienne, ça vient d'où ce mot ?
Alors Vespasienne, en fait, c'est pas vraiment l'empereur Vespasien, parce que lui, il avait quand même une excellente idée, il avait fait un impôt sur l'urine et sur les matières.
Donc on est à Rome.
On est à Rome, ça c'est les gens qui ont pas de villa chic et qui sont obligés d'aller dans les toilettes publiques. Ouais. Et donc il y avait un impôt sur ça, qui était une très bonne idée parce que ça devait rapporter, ça concerne tout le monde. Et son fils Titus d'ailleurs trouvait que c'était pas très chic, et c'est pour ça qu'un jour il lui a mis sous le nez quelques pièces de monnaie. Et il lui a dit, bah, tu vois, l'argent n'a pas d'odeur. C'est de là que ça vient. Et les Vespasiennes, en fait, c'est bien plus tard, donc ces toilettes publiques qui ont pratiquement disparu maintenant. Mais comme l'empereur Vespasien est resté un peu collé à l'idée des toilettes pour le public.
Bon, on n'a pas fini de découvrir ces latrines publiques de Rome. Comment évacuait-on les excréments à l'époque ? Et pourquoi pouvait-on lire sur les murs de la ville « Cacator, cave malum » ? Bon, les latinistes ont sans doute compris. Restez avec nous sur RTL.
Bonjour, c'est Julien Courbet. Écoutez-nous chaque matin entre 9h30 et 11h. Et vous verrez que tous ceux qui ont un problème et qui nous appellent, eh bien, repartent avec une solution. Pour cela, nous négocions en direct avec la partie adverse. Alors, à bientôt sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bienvenue au Petit Coin, on vous raconte l'histoire de ce lieu où l'on va 2500 fois par an en moyenne. Et on est toujours avec la journaliste Sabine Bourget. Alors, vous nous avez décrit un peu la situation dans l'Antiquité, notamment à Rome, sous l'Antiquité, où, Sidonie nous le disait tout à l'heure, on pouvait parfois lire sur les murs « Cacator cave malum ». Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire malheur, ou celui qui fait, disons, ses besoins naturels n'importe où va avoir des ennuis.
Parce qu'il y avait des sanctions, des punitions.
Il y avait certainement des sanctions, et puis surtout, quand même, il y avait un certain réseau d'égouts. Il y avait ces fameuses latrines publiques, et on n'aimait pas tellement que les gens fassent leurs affaires, si j'ose dire, n'importe où, dans la rue, contre votre mur et tout.
Parce que c'était comme ça que ça se passait avant, avant qu'il y ait des latrines publiques,
Quand il n'y avait pas tellement de villes, c'était vraiment dans la nature. Ouais. Et puis au fur et à mesure, ça a été dans les villes. Et donc, il y avait cette espèce de mise en garde, quand même. C'était plutôt peut-être un châtiment divin aussi, qui vont pendre au-dessus de la tête, si j'ose dire.
Est-ce que c'était un signe extérieur de richesse, d'une certaine façon, les latrines à Rome ?
Bien sûr. Mais de toute façon, je crois que ça l'est toujours. Finalement, les toilettes, c'est la vitrine d'une civilisation. Oui. Quelle que soit l'époque. Et bien sûr, les gens qui avaient de l'argent, qui avaient de belles villas, avaient leur latrine personnelle, avec leur propre tout à l'égout. Mais disons, leur évacuation, qui allait dans une fosse qu'il fallait vider. Enfin, c'était personnel. Mais on voit par exemple en Chine, quand il y a eu les JO en 2008, et finalement, il y a une énorme politique du pays pour justement remettre un peu au niveau les toilettes. Parce que c'est vraiment la vitrine de la façon dont vous êtes civilisé.
On va continuer avec vous, Sabine Bourget, de raconter l'histoire de ces wawa, de ces toilettes, de ces cabinets. On va avancer dans le temps, on passe à l'Ancien Régime, donc on est entre le 15e et le 19e siècle. On voit apparaître la fameuse chaise percée, Oui. Elle ressemble à quoi ? Elle fonctionne comment ?
C'est une espèce de meuble d'ébénisterie, une chaise avec un trou de 20 cm où vous vous asseyez, et en dessous vous avez une cuve qui était ou en métal, après au fur et à mesure en faïence, et que le très nombreux personnel que vous aviez à votre disposition se faisait un plaisir de vider, en fait.
Ah oui, c'était les toilettes des riches, en fait.
C'était les toilettes des riches, mais toujours, parce que finalement, les pauvres, globalement à cette époque, c'était dans un seau, par la fenêtre les mauvais jours, donc il ne fallait pas être en dessous. Ou sinon, vous aviez des gens qui portaient des seaux. Enfin, c'était quand même un peu laborieux.
Et la vie des rois de France, à l'époque, était scrutée en permanence. Oui. Ça veut dire que, si on prend Louis XIV, par exemple, il pouvait recevoir sur cette chaise percée.
Bien sûr.
En pleine affaire, si j'ose dire.
Oui, alors peut-être pas de très grands ambassadeurs, mais enfin, il pouvait
continuer. En pleine affaire courante, il faut
dire. Voilà, les affaires courantes, tout à fait ça.
Bonne expression.
En train de... sur sa chaise percée.
Ah oui, c'était
même un type, d'ailleurs, qui était le porte-coton, je crois, qui était du roi, et qui était plus ou moins chargé, donc, parce qu'après, fallait-il encore, il n'y avait pas le papier toilette. Mmh. Et c'était une charge, et il avait la charge ô combien fascinante aussi de l'entretien et du nettoyage de la fameuse chaise percée.
Il y a une autre, il y a une autre chaise percée. Alors, c'est pas vraiment une chaise percée, c'est plutôt un pot de chambre qui apparaît à cette époque, à l'époque de Louis XIV, qui s'appelait la Bardalou. On en entend parfois parler, mais c'était quoi? Quelle était sa fonction? Quelle est son histoire?
Bardalou, c'est un jésuite. Et alors, il avait l'habitude de faire des prêches qui étaient extraordinairement longs. Alors, c'était surtout les femmes qui s'en servaient, parce qu'il fallait tenir le temps de la messe et du prêche de ce fameux Bardalou. Donc, elles s'équipaient pour pouvoir tenir avec ce petit pot de chambre, sous, comme les robes étaient très larges. Bon, ouais. Ça allait.
Donc, le pot de chambre a pris son nom, c'est ça?
Exactement.
Donc, ça s'appelle le Bardalou. Très bien. Le grand livre du petit coin, c'est le titre de ce livre que vous publiez donc aux éditions Auray. Alors, il y a d'autres inventions. On a parlé là de la chaise percée. On va, comment dire, regarder une chasse d'eau.
Ah oui.
Et puis, ce papier WC là, qui est quand même bien pratique. Tout ça, c'est dans un instant sur RTL.
RTL.
C'est à un Anglais, John Harrington, que l'on doit l'invention des toilettes au XVIe siècle. Il a en effet l'idée d'installer une citerne d'eau sur le toit de sa maison et un long tube qui la relie à la cuvette des toilettes. En ouvrant un robinet, l'eau envoie les déchets dans une fosse située dans le jardin. Et la chasse d'eau est née.
La curiosité est un vilain défaut.
Grâce à cette innovation, fini les latrines taillées dans la pierre, les pots de chambre ou les chaises percées comme on les trouvait à la cour du roi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pipi room, gog, cabinet des anges, trône ou wawa, on vous raconte l'histoire de cette formidable invention. On se rend très très souvent, 2500 fois par an quand même, avec l'auteur et numismate Sabine Bourget. Cette chasse d'eau inventée par un poète, à la demande de qui? Un poète anglais? Comment il a l'idée d'inventer cette chasse d'eau?
Ça, je ne sais
pas.
Je n'étais pas
dans son. C'est la reine d'Angleterre, je crois.
Oui, c'est en Angleterre, mais surtout le grand homme des toilettes, si je puis dire, de la chasse d'eau, c'était un type qui s'appelait Thomas Crapper et qui était au 19e siècle. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le poème, il avait un nom prédestiné parce que to crap en anglais, ça veut dire chier. Ah. Alors là, c'est vraiment un destin.
Il faut que je fasse quelque chose.
C'est un destin qui est amené par le nom. Et alors lui, il a tout à fait arrangé des histoires de chasse d'eau modernisées avec des histoires de siphons.
Oui, ça se rapproche de ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà.
Complètement. Et il était très préoccupé aussi par le bruit de la chasse d'eau, par la chaîne. Fin. Et il a surtout, je crois, arrangé une des premières résidences qui était Sandringham pour la reine. Et après, un hôtel où la reine Victoria avait l'habitude de descendre et elle faisait grand cas de monsieur Crapper.
Crapper, le fameux. Autre invention qui n'a l'air de rien comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'y penser. C'est pour ça que c'est bien que la curiosité existe, parce qu'on se pose ce genre de questions et on y répond. C'est le papier toilette.
Oui. Bah, alors, vous êtes aujourd'hui. Comment?
Oh oui, alors, et sans papier toilette, on faisait comment? Vous nous aviez emmené, Sabine Bourget, dans l'Antiquité, dans les latrines publiques de Rome. On faisait comment pour
alors là, il y a plein de choses. Il y a soit carrément de l'eau, la main, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, la main gauche était la main qui s'occupait de ça, donc un peu mal vue. Vous avez ça, soit vous avez de la mousse, soit vous avez des feuilles. Pour les téméraires, il y a des coquillages.
Comme vous dites, pour
les téméraires, il y a des coquillages. Vous avez tout un tas de petits ustensiles, vous avez même des linges. Même dans l'Antiquité, vous avez un peu de chanvre. Vous avez, quand même tout un tas de choses.
Et alors, qui invente le PQ? Qui invente le papier toilette qu'on lui dresse une statue? Parce que merci à lui ou à elle.
Vous allez dresser une statue à un Américain, monsieur Cayetti, je crois qu'il était médecin. Oui. Et il a commencé à faire quelque chose à partir du chanvre, mais d'une espèce de chose beaucoup plus douce. Et lui, c'est quand même le grand homme du papier toilette. Et ça, c'est aussi, je pense, à la fin 19e, qui est quand même une grande époque pour ça. En 1877, il y a la Société hygiénique en France. Enfin, on commence vraiment à s'intéresser à la chose.
Oui, c'est aussi révélateur d'une époque.
Voilà,
on a fait une émission sur le baron Haussmann il n'y a pas très longtemps. On est dans cette époque hygiéniste. C'est ça. Hein.
Et après, alors on a eu une période qui était moins riante, parce que je ne pense pas que vous ayez connu, mais il y avait des trucs un peu rêches, un peu rugueux. Des trucs qui étaient à base de chanvre, toujours, mais plus ou moins réussis, du papier bulcorde ou je ne sais pas quoi, enfin des trucs horribles, qui étaient de la couleur du papier Kraft et qui étaient guère appétissants. Et au début des années 60, là, on va voir la ouate de cellulose.
Ah, le fameux papier blanc tout moelleux, c'est
voilà,
ça?
Voilà, tout moelleux, enfin ça, il faut attendre encore un peu, mais la ouate de cellulose, c'est. Et c'était Béguin, d'ailleurs, les raffineries, qui justement avaient commencé comme ça. Et c'était eux, le papier Lotus, qui était un peu précurseur.
Vous êtes une femme de chiffres aussi, Sabine Bourget, avec vous, on a appris qu'on passait 3 ans de notre vie aux toilettes. On en consomme combien par an et par personne de papier toilette?
Alors ça, c'est difficile, mais en tout cas, peut-être au moins une dizaine de kilos.
Oui, dans votre livre,
entre 10 et 15 kilos.
13 kilos, précisément.
10 et 15 kilos.
On vous a bien lu. Hein.
Mais tout le monde n'en utilise pas. On parle souvent du Japon. C'est vrai qu'au Japon, on n'utilise pas
et
le papier toilette.
Oui, parce qu'ils sont très modernes et que vous avez en fait des toilettes où vous avez un jet d'eau ascensionnel. Après, vous êtes séché. Et vous avez tout un tas de civilisations. Mais j'ai expérimenté, vous avez tout. Je suis très téméraire.
C'est bien, quoi.
Mais oui, c'est marrant. C'est amusant, c'est un peu surprenant pour nous. Vous avez des petits trucs de voyage aussi qui ont l'air d'être, vous savez, comme les waterpics et tout. Et en fait, c'est pas ça du tout, c'est pour se nettoyer.
Ouais.
Et puis, il y a quand même des civilisations, c'est surtout l'eau. Et donc, il n'y a pas du tout de papier. Et d'une certaine façon, c'est aussi très hygiénique de ne pas avoir de papier ou d'intermédiaire, si j'ose dire.
C'est pas faux.
Alors, vous êtes déjà posé cette question-là. Y a-t-il un tout à l'égout dans les avions?
Ah,
bah oui, ça va où? Réponse tout de suite sur RTL et dans la seconde partie de l'émission, portrait de l'étonnant et talentueux acteur américain Johnny Depp.
RTL.
Ma part, je suis allée aux toilettes. Habituellement, c'est une fête. Mais en moment de m'essuyer,
il n'y avait plus de papier.
La curiosité est un vilain défaut.
Il n'y a plus de papier dans les WC. Comment je vais faire pour m'essuyer?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je cherche le papier toilette, mais il n'y en a plus, je fais la tête et je rouspète.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Parodie de la chanson de Régine, Les petits papiers, écrits par Serge Gainsbourg. C'est bien drôle, bah oui.
C'est drôle comme parodie.
Grâce à la curiosité, vous saurez tout sur l'histoire de vos toilettes, vos WC, grâce à notre invitée Sabine Bourget. Alors, vous avez peut-être lu dans la presse ou vu sur Internet cette Canadienne qui a reçu une pluie de caca liquide sur sa voiture. Et là, je me suis demandé, mais attendez, est-ce que les avions jettent leurs excréments par-dessus bord? Non, mais c'est une vraie question sérieuse.
Non, dans les années 30, oui. Mais enfin, plus maintenant. Maintenant, il y a quand même toute une installation. En fait, généralement, le bloc est congelé. Les excréments sont congelés. Et alors, effectivement, s'il y a, bon, c'est peut-être pas plus engageant, mais s'il y a un problème technique, le bloc peut se détacher, ce qui n'est pas très bon signe. Et dans ce cas-là, c'est même pire, parce que elle, c'est curieux. Je pense qu'elle a dû recevoir des choses plutôt congelées, comme des paillettes. Bah oui, bah, c'est la très
réalité. On s'évanouit dans le studio de la curiosité.
Et
il y avait aussi un monsieur en Espagne qui avait, heureusement, été sorti de sa bagnole, parce que le truc est tombé, enfin, le bloc est tombé sur le toit de sa voiture.
Oui,
qui
donc,
était quand
là,
même,
c'était très lourd, là.
Ouais, c'était très
donc,
lourd.
En fait, le bloc, quand on sort, quand on atterrit, il y a des techniciens
bah, qui viennent récupérer les blocs et puis qui s'en débarrassent. Il y a des petits trucs exprès pour ça, Dieu merci. Enfin, c'est un accident très rare.
Oui, vous nous rassurez.
Là, c'est qu'on n'a vraiment pas de peau. Non.
D'ailleurs, ça vous fascine tellement les toilettes, et c'est vrai que c'est un endroit tellement étonnant, que vous publiez, à Sabine Bourget, un roman, un polar même, qui s'appelle Fatale Attraction aux éditions Lucien Souni. Pardon.
C'est Fatale Sélection. Fatale Sélection.
Ah pardon, ça s'appelle Fatale Sélection.
Fatale Sélection.
C'est marrant.
Ah, c'est intéressant.
C'est l'attraction.
Ah, vous y passez beaucoup de temps, c'est
bien. Bien sûr, comme tout le monde. Et donc, l'action se passe autour des toilettes ou dans les toilettes?
Non, mais c'est... Enfin, oui. C'est un tueur en série qui tue en ce moment des antiquaires pour des raisons très précises. Et comme c'est pas facile de tuer quelqu'un sans témoin, il va en tuer plusieurs dans les toilettes. Parce que là, il est sûr qu'il n'y a pas de caméra.
Quelle bonne idée.
Oui, quelle bonne idée.
C'est à lire et c'est aux éditions Lucien Souni. Et puis, évidemment, le grand livre du Petit Coin, à s'acheter, à s'offrir aux éditions Auray. Merci beaucoup, Sabine
Bourget. Merci à vous.
Vous écoutez RTL.